Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Bon anniversaire au pape François. Des milliers de fidèles et de fans lui ont présenté leurs vœux sur Twitter et les autres réseaux sociaux, ainsi que par le biais de la boîte mail de Radio Vatican. Des sans-abri ont assisté à la messe du Saint-Père et ont partagé leur petit déjeuner avec lui ce mardi. Nous allons en parler dès le début de cette émission. Nous évoquerons également dans ce magazine le drame des Éthiopiens sans papier expulsés sans ménagement d'Arabie Saoudite, les massacres, le pillage des ressources et l'instabilité permanente au Kivu. Et à l'approche de Noël, nous donnerons, comme chaque année, la parole au patriarche latin de Jérusalem. Pour les 77 ans du pape François, ce mardi 17 décembre, 400 abris ont été invités à assister à sa messe quotidienne dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où le Saint-Père continue de loger depuis son élection. Ils étaient accompagnés du chef de l'aumônerie apostolique, Mgr Konrad Krajewski, qui sillonne régulièrement les rues de Rome, épaulé de certains gardes suisses, pour porter assistance ou sans domicile fixe. Quand il était archevêque de Buenos Aires, Mgr Bergoglio sortait souvent le soir pour aller voir les pauvres. En nommant ce prélat polonais à la tête du bureau des charités pontificales, il lui a demandé d'être le prolongement de sa main pour porter une caresse aux déshérités et aux laissés pour compte. Mgr Krajewski mène depuis une action quotidienne et discrète pour transmettre aux plus miséreux la solidarité et la chaleur de l'évêque de Rome. À l'occasion de son anniversaire, le pape François, premier pape de l'hémisphère sud, avait également convié à sa messe matinale le personnel de la résidence Sainte-Marthe afin de créer un climat particulièrement familial. Xavier Sartre.
Fidèle à lui-même, le pape François a accueilli lors de cette messe 400 abris vivant près du Vatican et présentés par son aumônier, Mgr Krajewski. Aux côtés de Mgr Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège, venu lui aussi présenter ses vœux au pape, tous sont allés prendre le petit déjeuner dans le réfectoire de la maison Sainte-Marthe. Auparavant, dans son homélie, le pape est revenu sur la généalogie de Jésus, au centre de l'évangile de ce jour. J'ai entendu un jour quelqu'un dire « Mais cet extrait de l'évangile, on dirait l'annuaire téléphonique. » Et non, c'est tout autre chose. Cet extrait de l'évangile est une vraie histoire et traite d'un sujet important. Dieu a envoyé son Fils et Jésus est consubstantiel au Père, Dieu, mais aussi consubstantiel à la Mère. Dieu s'est fait histoire, Dieu a voulu se faire histoire, il est avec nous. Et cette marche a été entamée avec Abraham, puis a été poursuivie par Isaac et Jacob. Dieu chemine avec nous tous, y compris les pécheurs, même les plus grands, et de se demander quel est le nom de Dieu. « C'est nous !» s'est exclamé le pape. « Il prend notre nom pour en faire le sien. » À l'approche de Noël, il a également invité les fidèles à laisser Dieu écrire notre histoire, c'est-à-dire celle de la sainteté. « Que le Seigneur écrive ton histoire et que toi, tu te laisses écrire la tienne », a-t-il conclu.
Ce mercredi, le pape François présidera sur la place Saint-Pierre la dernière audience générale de l'année 2013, la 30e depuis le début de son pontificat. Conformément à la tradition, il recevra la lumière de la paix de Bethléem, une initiative des diocèses d'Autriche. Un enfant autrichien lui remettra une lanterne allumée dans la grotte de la Nativité. Depuis 1986, cette initiative, parrainée par la radio-télévision autrichienne ORF, est devenue l'un des symboles de Noël. Cette dernière audience générale de 2013 sera par ailleurs marquée par la présence d'une délégation du San Lorenzo de Buenos Aires, l'équipe de football favorite du Saint-Père, qui vient d'être sacrée championne d'Argentine lors de la 19e et dernière journée du tournoi. Et je vous rappelle que le 24 décembre, le pape François présidera la messe de la nuit de Noël à partir de 21h30 dans la basilique Saint-Pierre. Le mercredi 25 décembre, à midi, il adressera son message de Noël au monde depuis le balcon central de la basilique avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Le 31 décembre, à 17h, le souverain pontife célébrera les premières vêpres de la solennité de Marie, Mère de Dieu, suivie du Tédéum d'action de grâce de fin d'année. Le mercredi 1er janvier, journée mondiale de la paix, il présidera une concélébration eucharistique à partir de 10h dans la basilique Saint-Pierre. À Jérusalem, c'est ce mercredi à 16h que le patriarche latin, Mgr Fouatoual, donnera sa conférence de presse annuelle à l'occasion des fêtes de Noël. L'année dernière, il avait appelé les dirigeants politiques à mettre au point un projet de paix pour le Moyen-Orient meurtri, englobant la Palestine et Israël. Il avait plaidé en faveur de plus de stabilité et de démocratie dans la région. Selon lui, les entraves au processus de paix en Terre Sainte constituent un obstacle majeur à l'évolution des sociétés au Moyen-Orient et à la situation des chrétiens en particulier. Les chrétiens qui ont vu leur situation empirer depuis le début des printemps arabes. Mgr Toual a également dénoncé au mois de septembre dernier des silences coupables devant la montée de l'islamisme dans la région, ainsi que le processus de judaïsation en Terre Sainte et en particulier à Jérusalem. C'est donc le cœur plein de tristesse et d'inquiétude qu'il présente cette année ses vœux de Noël. On l'écoute.
Considérant tout ce que nous sommes en train de vivre au Moyen-Orient et en Palestine, un territoire occupé par l'armée israélienne, quelquefois nous avons l'impression que nos souhaits les uns pour les autres sont des clichés vides. Mais c'est pas vrai. Malgré toutes les difficultés que nous avons, la situation politique, situation économique, les camps de réfugiés, les milliers et milliers de familles qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de refuge, ils sont exposés au froid et à tout ça. Nous ne pouvons pas ne pas penser à eux, prier pour eux et crier, faire un appel de continuer à penser à ces pauvres-là. Nous n'avons pas le droit d'être désespérés, nous n'avons pas le droit d'avoir peur, nous n'avons pas le droit, bien que humainement, franchement, nous sommes fatigués et de nous-mêmes et de la situation, nous n'avons pas le droit parce que quelqu'un est venu pour nous sauver. Avec les réfugiés, avec les étrangers, les chercheurs d'asile et de travail, nous, chrétiens, c'est à nous de leur donner ce que nous avons de meilleur. Le meilleur que nous avons, c'est la connaissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est notre communion avec Dieu. Il faut avoir le courage de partager ces valeurs chrétiennes avec les gens que nous aidons pour aider pas seulement matériellement, mais aider à l'intégration à totale et le renouvellement total de la personne humaine. Et de notre côté, je demande la prière de tous nos amis qu'ils prient pour nous.
Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouatoual, interrogé par Tracy McClure de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Et en cette troisième semaine de l'Avent, nous retrouvons la famille Doucet qui suit la retraite avant dans la ville. Une préparation à Noël sur Internet proposée gratuitement par les Dominicains de la province de France. Les parents et leurs 5 enfants vivent à côté de Lille dans le nord de la France. Audrey Radondi.
Après la décoration de la maison, la famille a suivi le chemin proposé par Avant dans la ville. Un petit mot à partager. Ils ont envoyé des cartes à des amis et à de la famille. Une démarche importante pour Karine Doucet.
D'abord, moi, principalement, je me suis mise à écrire enfin, à répondre à des amis. Je n'ai pas vu depuis un moment. J'attends toujours après Noël, jour de l'an. En fait, je me suis dit que c'était une très bonne idée de leur souhaiter un bon temps de l'Avent. Je me suis un peu poussée pour écrire avant et pas en traînant trop tard.
Les enfants ont aussi écrit quelques mots, comme l'explique Antoine, 8 ans.
J'envoie une carte postale à mes grands-parents, voilà, pour qu'ils soient en joie et pour moi, ça me rend aussi joyeux de leur écrire et pour que surtout mon parrain que j'ai pas vu depuis longtemps.
Se rapprocher de ses amis, partager avec eux ce temps de l'Avent, ce sont quelques-unes des raisons qui ont poussé Karine Doucet à prendre sa plume.
J'ai envie de retrouver avec eux ce lien d'amitié, même si on est plus éloigné. Et puis leur apporter justement cette préparation, cette belle période, parce que parfois ces personnes n'ont pas forcément d'abord la même connaissance de Dieu et de Noël que j'ai. Et donc essayer de les rapprocher, et puis d'autres sont tristes, sont pas dans une période très facile, donc essayer de leur apporter un peu de joie, un peu de gaieté.
Et cette semaine, pendant la retraite, un proverbe l'a particulièrement marqué.
Le frère qui lit les méditations parlait d'un proverbe. C'était « Nous avons reçu une bouche et 2 oreilles parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle ». J'ai trouvé très beau et j'en ai même parlé aux enfants le soir. On a discuté justement, apprendre à écouter 2 fois plus, être ouvert à l'autre. Et justement, quand on écrit aux autres, c'est leur écrire, mais pour ensuite recréer ce lien, pour savoir comment eux vont, comment eux se portent. Voilà, ce rapport avec l'autre, l'écoute.
Apprendre à écouter 2 fois plus les autres, c'est ce qu'a retenu Karine Doucet, mais pas seulement.
Apprendre à donner de son temps, c'est ce que je veux aussi avec les enfants, justement, prendre le temps d'écrire à leurs parrains, leurs marraines, en leur offrant offrant quelque chose, pas toujours se dire, c'est bon, Noël, c'est moi qui reçois, c'est moi qui vais avoir des cadeaux, mais apprendre à offrir. Offrir aussi à Jésus, puisque c'est quand même lui qui va venir, parce que c'est quand même lui qui est le plus beau cadeau, donc faut savoir lui donner aussi des petits cadeaux.
Alors cette année, pour la première fois, Antoine et ses frères et sœurs vont aussi offrir des cadeaux à Jésus.
Oui, on a écrit des petits cadeaux pour Jésus, on a écrit des petits mots où on mettait tous mes trésors dans une boîte et qu'on brûlera au feu pour, à Noël pour que ça vienne dans les cieux. C'est important parce que c'est sa naissance, c'est comme notre naissance. On fait des petits cadeaux, on dit des mots gentils, on vient le voir.
Et après une semaine consacrée à recréer des liens avec les amis et la famille, il leur est proposé d'installer un sapin des voisins et de le décorer avec eux.
La Caritas se mobilise en faveur des Éthiopiens sans papiers expulsés d'Arabie Saoudite. Ils sont déjà plus de 127 000, un nombre beaucoup plus élevé que prévu, dont des femmes enceintes, des malades, des victimes d'abus et de mauvais traitements. Ils étaient entrés illégalement en Arabie Saoudite à la recherche d'une vie meilleure et ils n'ont plus rien. Cet afflux constitue un défi de taille pour Addis Abeba, le pays étant confronté à un chômage massif. Olivier Bonnel.
Une situation d'urgence selon l'Organisation internationale des migrations qui estime les besoins à près de 10 millions d'euros. Les rapatriés ont besoin de logements provisoires et de nourriture. Aux côtés du gouvernement et des organisations internationales, Caritas Éthiopie est à pied d'œuvre. L'église catholique locale a déjà fourni du matériel de première nécessité, des produits d'hygiène pour les femmes et les enfants, du lait et de l'eau potable, grâce aussi au soutien de Caritas Irlande. L'archevêque d'Addis Abeba a demandé à toutes les paroisses du pays d'organiser des prières et des collectes. Les témoignages des rapatriés sont accablants quant aux conditions de vie qui étaient les leurs en Arabie Saoudite. Violence physique et mentale, salaire dérisoire, discrimination, biens volés par les forces de l'ordre, conditions de travail indignes, un véritable calvaire. Des Yéménites, Soudanais, Érythréens, Philippins, Bangladeshis ou Indiens ont subi le même sort. L'Arabie Saoudite compte près de 9 millions de travailleurs étrangers. Pour créer des emplois pour les citoyens saoudiens et éviter la contagion des printemps arabes, Riyad a commencé depuis le 4 novembre à appliquer des mesures contre les travailleurs clandestins. Des centaines de milliers d'immigrés asiatiques sont concernés.
Et toujours en Afrique, pas de répit pour la province riche et instable du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et certains corps mutilés, pour la plupart à l'arme blanche. Cette attaque d'une extrême brutalité a été menée les 13 et 14 décembre. Selon la MONUSCO, trois filles mineures auraient été violées par les assaillants avant d'être décapitées. Le corps mutilé et démembré d'un enfant aurait aussi été retrouvé sur un arbre. La région frontalière de l'Ouganda est régulièrement le théâtre d'exactions et atrocités menées par différents groupes armés rebelles. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en coltan, minerais essentiels à l'électronique, des mobiles aux missiles. Son pillage est l'un des enjeux des combats qui ravagent le Kivu alors que la population profite très peu de la manne. Le père Didier de Failly, jésuite belge, dirige le bureau d'études techniques et scientifiques de Bukavu. Son étude « Coltan pour comprendre » parue en 2001 est considérée comme un texte de référence. Malheureusement, la situation des mineurs et l'exploitation des ressources ne s'améliorent pas.
Leurs conditions sont manifestement fortement dégradées et de même l'exploitation des ressources elle-même s'est fortement dégradée parce qu'il n'y a presque plus de marché à l'heure actuelle. Donc, ce qui fait que les creuseurs ont migré des endroits où ils exploitaient les 3T, donc la cassitérite pour l'étain, le wolfram et le coltan pour la tantalite. Ils sont partis de là pour pouvoir aller une centaine de kilomètres plus au sud, creuser pour l'or. Et l'or part en contrebande. Et ça, c'est très très mauvais parce que ils ne sont pas avec leur famille. Ils sont dans des camps avec une grande promiscuité. Et puis, ils vont revenir un jour en famille en rapportant le sida à leur femme, quoi. Donc ça, c'est vraiment déplorable.
Jusqu'ici, le commerce de l'or, du coltan et de la cassitérite a été utilisé par les belligérants qui participent au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo pour se financer. À votre avis, la récente défaite d'AN-23 rendra possible que les profits de ce commerce soient enfin utilisés en faveur de la population congolaise?
La défaite du AN-23, à mon avis, ne va rien changer à la chose parce qu'il n'y a pas de volonté politique de pouvoir mieux gérer la question minière artisanale. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une énorme misère dans la population Et donc le M23 qui maintenant a été éliminé, il va y avoir d'autres groupes qui vont surgir, tout simplement parce que quand vous avez la Kalachnikov, vous avez la nourriture, vous avez les filles, vous avez l'argent gratuit.
Les industries des pays développés ont bénéficié du commerce des minéraux aussi. Dernièrement, des initiatives comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis ont été adoptées pour combattre l'exploitation illégale. Quels sont les éléments positifs et les limites de ces initiatives?
La traçabilité, donc la certification et la traçabilité des produits des minéraux, ça c'est une chose qui est absolument nécessaire. Nos produits sont des produits à problème et donc dorénavant, ils doivent être étiquetés ou tracés convenablement. Ça, il n'y a pas de doute. Non, le problème, c'est qu'en fait, on a fermé les marchés parce que l'étiquetage ne se fait pas beaucoup. Il n'y a que quelques endroits au Congo, encore récemment, on a ouvert quelques endroits, mais il n'y avait qu'un seul endroit au sud Kivu et pratiquement aucun au nord Kivu, vous voyez. Alors là, c'est extrêmement néfaste parce qu'à ce moment-là, ça ne permet plus aux gens de pouvoir avoir accès au marché. Les prix sont nettement diminués aussi. Autrefois, on payait entre 12 et 15, même parfois 17 dollars le kilo de cassitérite. Et maintenant, c'est tombé à 3 ou 4 ou 5. Donc, ce sont vraiment des éléments négatifs.
Comment la communauté internationale, donc, peut-elle intervenir concrètement en faveur des mineurs?
Je pense que si, effectivement, la Commission européenne parvient à se mobiliser pour faire un travail de développement en faveur des creuseurs artisanaux, je pense qu'on peut arriver à un résultat. Moi, j'ai travaillé autrefois, en 88-91, comme expert de la coopération européenne, là-bas au Kivu. Et je me suis rendu compte que la Commission européenne est capable de mobiliser des fonds, mobiliser des personnes. Le problème, c'est que, à mon avis, nous ne connaissons pas encore suffisamment les conditions de vie, les conditions d'accès au travail de ces creuseurs. Par exemple, moi-même, je me suis rendu compte récemment qu'ils étaient analphabètes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où ils étaient en âge scolaire, c'était dans la région des guerres, et les écoles ne fonctionnaient pas. Il faut se rendre compte aussi que, par exemple, les creuseurs d'or à l'heure actuelle, ils ont parfois 200-300 dollars dans les mains quand ils vendent leur or de la semaine. Mais ils n'ont absolument aucun moyen de pouvoir faire communiquer cela, de pouvoir transférer cela à leur famille. Mais ils n'ont aucun moyen, il n'y a aucun guichet, aucun système qui le permette.
Quel rapport y a-t-il entre l'attention à ces thèmes et la mission, l'évangélisation? Pourquoi vous, un père jésuite, avez décidé de dédier votre attention à ces problèmes?
J'ai écrit un article en 2001 sur le boom minier du coltan. C'était une bombe énorme au niveau de l'économie du sud Kivu. Je me suis aussi rendu compte progressivement que ces creuseurs sont des gens faibles, très très nombreux, parce qu'on parle de 200 000 creuseurs rien pour le sud Kivu. J'ai aussi été pendant une vingtaine d'années aumônier universitaire. Et chaque année, j'avais des étudiants qui partaient pendant les vacances académiques. Ils partaient creuser pendant 2-3 mois pour pouvoir payer leurs études pendant le restant de l'année. Moi, je me bats pour les petits. Et ça, c'est tout à fait chrétien, vous voyez.
Le père Didier de Failly, directeur du bureau d'études techniques et scientifiques de Bukavu, interrogé par notre confrère de la rédaction italienne, Davide Maggiore. Un deuil au sein du Collège des cardinaux. L'archevêque émérite de Barcelone s'est éteint ce mardi. Le cardinal Gordo était âgé de 87 ans. Il avait été hospitalisé le 25 novembre à la suite d'un ictus cérébral. Le Sacré Collège compte désormais 199 membres, dont 109 électeurs. Dans un télégramme de condoléances, le pape François rend hommage aux défunts. Il salue ses initiatives pastorales et l'attention qu'il accordait aux clergés, aux religieux et aux séminaristes. Et puis je vous rappelle que c'est ce mercredi que le cardinal Koch doit rencontrer le patriarche Kirill à Moscou. L'entretien entre le chef de l'église orthodoxe russe et le président du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens devrait porter sur la situation des chrétiens au Moyen-Orient et en particulier en Syrie, ainsi que sur le dialogue théologique, avec en toile de fond une intensification sans précédent des contacts entre les deux églises. Le cardinal Koch est le 4e représentant catholique à visiter Moscou en l'espace d'un mois et demi, après le cardinal Paul Poupard, le cardinal Angelo Scola et Mgr Vincenzo Paglia. De son côté, le métropolite Hilarion, chargé des affaires extérieures au sein du patriarcat de Moscou, a été reçu par le pape François au mois de novembre au Vatican. Au cours d'une conférence de presse, le président du dicastère pour l'unité a reconnu que les relations s'étaient améliorées et que des actions communes étaient envisagées. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais je vous invite également à nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.